enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Le thème de ma réflexion que je vais vous partager et qui servira pour tous ceux vers lesquels cette vidéo va pouvoir circuler, c'est être partenaire avec Christ. Je voudrais déjà commencer par introduire dans le livre de la Genèse au chapitre 1er, verset 26. Et Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent. Notez bien ce verbe, ceux qui nous ressemblent. Nous voyons ici qu'il y a Dieu le Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, qui a établi une alliance avec le couple Adam et Ève, en faisant d'eux des partenaires dans le secret de son plan. Un plan pour l'humanité. Dans ce partenariat, nous y voyons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, autrement dit, la Sainte Trinité. Ce partenariat pour Adam et Ève était un partenariat d'excellente qualité, puisque c'était un partenariat qui était établi dans la plénitude de la gloire de Dieu. Ils étaient là, vivant au bénéfice de l'arbre de la vie, ils étaient dans un environnement glorieux. Et tout en étant dans cet environnement glorieux, ils étaient revêtus de ce corps céleste, puisqu'ils étaient créés à l'image de Dieu, étant créés à l'image de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, puisqu'il a dit « Faisons les hommes pour qu'ils nous ressemblent, nous, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. » Ainsi, Adam et Ève vivaient un partenariat d'excellente qualité, comme je le disais. Ils vivaient ce partenariat sans aucune notion du mal. Ils étaient dans cet amour parfait qui ne suppose point le mal. Étant dans cette dimension, ils avaient la capacité merveilleuse de pouvoir gérer les biens du royaume de Dieu. Ils avaient été établis pour cela. Ils pouvaient également se multiplier et faire bénéficier les fruits de la gloire de Dieu, en faire bénéficier à leur descendance. Ils pouvaient ainsi transmettre cet héritage divin, un héritage glorieux, je le répète. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient tout simplement connectés à l'arbre de vie. Et étant connectés à cet arbre de vie, ils s'en nourrissaient, ils se nourrissaient des fruits célestes. Ils étaient donc revêtus de la gloire de Dieu, ils pouvaient donc vivre sans connaître la mort. Alors maintenant, confrontons cette parole de l'apôtre Pierre dans 2 Pierre, chapitre 1er, verset 4 et suivant. Mais je lis l'essentiel. Ainsi, nous bénéficions des dons les plus précieux et les plus grands que Dieu nous avait promis. Il a voulu par ces dons vous faire participer à la nature divine, vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans le monde. Notons bien Dieu désire nous faire participer à sa nature divine, avec tout ce que cela comporte, dans la dimension de la gloire que Christ a reçue pour nous. Comme vous le savez, le chaos est arrivé, Adam et Ève ont désobéi. Ils ont goûté de l'arbre du bien et du mal. À partir de là, ils ont commencé, ayant pris le pouvoir, ils ont commencé de raisonner et d'être les juges de ce qui leur semblait bon ou mauvais. Ils ont eu le cœur corrompu, tout simplement parce que la raison a été placée au-dessus de la foi, au-dessus de cette gloire. Ainsi, dans cet ordre, dans ce désordre, plus ou moins, eh bien, qu'est-ce que nous constatons? L'alliance est rompue, la mort spirituelle fait son œuvre, la pollution s'est répandue dans l'univers, l'odeur de la vie devient nauséabonde, la nature a perdu de son éclat, le vieillissement a commencé son œuvre dans l'homme, et la mort physique est devenue par définition l'aboutissement. Amen. Continuons. Dans Genèse 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau pour les habiller. Et il les chassa du jardin d'Éden. Ils ne pouvaient pas, par leur corruption, continuer de vivre là où ils étaient, car sinon ils auraient vécu éternellement dans le péché. Il fallait donc qu'ils soient rejetés du jardin d'Éden, mais notez bien, avant qu'il ne les chasse, il les a revêtus. Ils ont perdu leur domicile céleste et ils ont été revêtus d'un domicile terrestre. Nous verrons tout à l'heure le verset, mais pour l'instant, restons-en là. Alors, Genèse 3, 7, il y a deux hypothèses. Dieu rétablit une alliance par un sacrifice, puisque c'est des vêtements de peau. Dieu rétablit une alliance par un sacrifice, don de Dieu, animal, vêtements de peau, donc il y a sacrifice, pour remplacer les pagnes qu'Adam et Ève avaient confectionnées avec des feuilles de figuier, pour cacher leur nudité. Vous remarquerez, entre parenthèses, que dans certaines ethnies, comme vous avez certainement déjà pu le voir, la première des choses, c'est que les gens cachent leur nudité. À partir de feuilles, de ce qu'ils peuvent trouver, ils cachent leur nudité. Qui leur a enseigné cela? Deuxième hypothèse, Adam et Ève étaient revêtus de ce corps céleste de la même nature que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, puisqu'ils étaient créés à la ressemblance de Dieu. Donc, la corruption intervenant, leur corps a perdu totalement l'éclat de la gloire, c'est-à-dire de cette ressemblance, de l'image de Dieu. Et ils ont tourné leur regard sur ce qui leur manquait, sur cette nudité qu'ils avaient, ayant perdu cette gloire, ils se voyaient nus. Ils voyaient donc leur pouvoir limité, dépossédé de la richesse de Dieu. Ils ont été les juges de leur propre existence, puisqu'ils sont devenus partenaires de celui qui avait le moyen et le motif de les accuser. Adam a eu peur. L'Éternel le cherchait, mais Adam a eu peur. Le péché étant donc entré dans leur vie, a fait son œuvre mortelle. Dieu les a donc revêtus de ce vêtement de peau pour les couvrir, ce vêtement de chair et de sang, qui ne peut bien entendu hériter de la gloire. La chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Ne pouvant pas hériter du royaume de Dieu, il faut qu'il y ait une transformation. D'où la nécessité, c'est ce que nous verrons par la suite, de cette transformation que nous appelons également de cette métamorphose. L'amour de Dieu qui découle de l'arbre de vie ne suppose pas le mal. Rappelez-vous cette parole, l'amour ne suppose pas le mal. Autrement dit, il ne leur appartenait pas d'être les juges, mais de servir dans cette dimension d'amour relatée par l'apôtre Paul dans sa première lettre au chapitre 13, quand il dit « Quand bien même vous pourriez sacrifier tous vos biens, quand bien même vous pourriez donner tout ce que vous êtes, si vous n'avez pas l'amour, cela ne sert de rien. » Il nous parle de cette dimension d'amour qui dépasse l'amour que, en tant qu'humain, nous pouvons avoir, nous pouvons manifester, mais vous en conviendrez combien de fois, aujourd'hui on aime, lendemain on aime moins, après, ah ben oui, ben finalement on les aime. Ça, c'est l'amour imparfait, n'est-ce pas? Mais l'amour de Dieu ne suppose point le mal. Ainsi, dans sa grâce, lorsque Dieu nous voit en Jésus-Christ, il ne voit pas le mal. Qui donc peut nous montrer ainsi le mal, si ce n'est que l'accusateur, qui lui cherche toujours et s'appuyant toujours sur des faits pour dire « Ah oui, mais là, tu as une tâche ». Ainsi, dans notre partenariat avec Christ, comprenons qu'il n'y en a qu'un qui veut ainsi nous détrôner de ce partenariat par toutes sortes de moyens. Mais ce n'est pas là mon propos. Ainsi, dans cette dimension d'amour, nous avons donc la nécessité absolue de porter notre regard, non sur notre nudité, et encore moins de nous lamenter sur nous-mêmes, mais de porter notre regard sur Jésus, dans toute sa gloire, notre Rédempteur, car au moyen de la foi, le seul moyen que nous ayons, il n'y a pas d'autre moyen que le moyen de la foi, de désirer ardemment, l'ardeur, revêtir tangiblement la nature de Christ, tel qu'il est aujourd'hui. 1 Corinthiens 15, versets 40 à 49 et suivants. Ainsi je lis. Tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Tel est le céleste, tels sont les célestes. Nous porterons aussi l'image du céleste. Alors peut commencer ce processus de la transformation de notre corps terrestre pour qu'apparaisse notre corps céleste. C'est la volonté de Dieu, celle de la Sainte Trinité. Faisons l'homme pour qu'il nous ressemble. En Christ, nous retrouvons notre identité. Notre identité naît de nouveau, notre identité, elle est en Christ. Nous sommes donc, en tant qu'être né de nouveau, associé à cet héritage dans la gloire que Jésus a obtenu pour nous après avoir vaincu Monsieur Mort. Monsieur Mort est mort. Ce sont des réalités. Jésus est vivant. Jésus est sorti du tombeau. Il est vivant. Il a vaincu la mort. N'est-ce pas? Et c'est ce qu'il dira à l'apôtre Jean. Je tiens les clés du séjour des morts. Amen. Confrontons maintenant cette parole avec 2 Chroniques, chapitre 1, versets 10 à 12. Une parole que je mets entre parenthèses à votre réflexion, à votre appréciation, à la révélation que vous pouvez en recevoir, où il est dit, et c'est le roi Salomon qui parle et qui demande, « Accorde-moi donc maintenant la sagesse et la connaissance nécessaires pour que je sache comment me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait gouverner ton peuple qui est si grand ?» Alors, vous connaissez bien l'histoire du roi Salomon, je ne vais pas m'y attarder, mais le roi Salomon vivait dans une dimension de gloire. Le peuple était là dans une dimension de gloire, et pour autant, il aurait pu s'appuyer sur ses richesses, exerçant le pouvoir par rapport aux richesses qu'il avait, n'est-ce pas ? Il pouvait le faire. Il en avait toute la capacité. Mais cependant, ce qui m'a interpellé, c'est que le roi Salomon ne va pas exercer son pouvoir, et le pouvoir qu'il a reçu en tant que roi, il ne va pas l'exercer en tenant compte de ses richesses. Il va dire, qui pourrait gouverner ton peuple ? Il n'a pas dit mon peuple. Il n'a pas pris le peuple comme étant sa propriété. Il a dit ton peuple. Et quand il dit ton peuple qui est si grand. Alors, permettez, je l'ai vu de cette façon. C'est pour ça que je dis la réflexion reste ouverte. D'accord ? Il serait même intéressant d'aller voir dans l'origine hébreu ce que cela signifie précisément. Mais ce qui m'a interpellé, ton peuple si grand, n'aurait très bien pu dire ton peuple si nombreux. D'accord ? Mais ton peuple si grand, c'est-à-dire que le roi Salomon voyait le peuple de Dieu dans une autre dimension. Et c'est pourquoi nous pouvons comprendre, en tout cas nous pourrions comprendre aisément, que dans la dimension de la gloire de Dieu et non de la dimension par rapport aux richesses terrestres, le roi Salomon voyait le peuple de Dieu dans la dimension où il était. Ainsi il dira, mais qui peut gouverner ton peuple si grand ? Imaginez qu'en ce moment, quand nous disons, nous sommes en Christ, nous confessons notre foi en Jésus, mais comment Dieu, notre Père, nous voit-il ? Il ne nous voit pas comme des petits chrétiens. Il ne nous voit pas comme des gens amoindris. Il voit son peuple que nous sommes et que nous confessons être, il le voit dans une autre dimension, dans une dimension de gloire. Et si je m'en tiens dans des pays tels que sur les continents, le continent africain, par exemple, eh bien nous nous apercevons qu'est-ce qui fait que ce peuple, entre guillemets, progresse tout simplement parce que ils croient et ils ont saisi, et ils saisissent par le moyen de la foi, cette réalité où ils sont dans la présence du Seigneur, ils sont dans une autre dimension que celle sur laquelle, dans laquelle ils se trouvaient auparavant. C'est-à-dire qu'ils ont la vision, en tout cas ils cherchent et ils saisissent la vision que Dieu est grand. Si donc mon Dieu est grand, je suis moi aussi quelqu'un de grand. Mon père est grand, un enfant dira, si mon père est grand, moi aussi je suis grand. Amen. Papa est riche, moi aussi je suis riche. D'ailleurs, quelle souffrance pour des parents qui sont riches et de voir quelquefois un de leurs enfants qui va vivre, qui va faire la manche, qui va vivre dans la mendicité parce qu'il rejette On a l'exemple avec le fils prodigue. Un père qui était très riche et qui voit son fils aller dépenser, n'est-ce pas, tout ce qu'il avait reçu pour vivre, quoi, avec les pourceaux. Le roi Salomon donc était très riche, mais de ses richesses, il n'en a tiré aucun pouvoir pour gouverner à sa guise le peuple de Dieu. Ne pouvait-il pas le faire? Mais bien sûr qu'il pouvait le faire. Mais sa raison d'être s'est effacée pour être le partenaire selon le cœur de Dieu. Il ne s'est pas donc appuyé sur le pouvoir de sa propre richesse, mais il s'est appuyé sur la richesse illimitée de Dieu. Il était ainsi équipé de la sagesse et de la connaissance de Dieu, et le partenariat du roi Salomon s'est étendu tout autour de lui, jusque sur le peuple qui était si grand. Ainsi, ce que nous pouvons comprendre, et je prends un autre exemple, avec 2 Corinthiens 8, les Macédoniens, qui, dans leur pauvreté profonde, ils étaient dans une joie débordante. Et tenez-vous bien, dans cette joie débordante, dans les tribulations, c'est eux qui vont demander à l'apôtre Paul, nous voulons prendre part. Je voudrais bien qu'un jour les gens viennent me dire, apôtre Yves, nous voudrions prendre part. Ça m'éviterait d'envoyer des lettres parfois pour dire, voilà, il y a des besoins et autres. Ce serait extraordinaire. Mais pourquoi? Quelle était, je pense, la clé qu'ils avaient? Eh bien, tout simplement, qu'ils ne considéraient pas ce qu'ils n'avaient pas. Ils ne considéraient pas le contexte dans lequel ils se trouvaient, mais ils étaient dans un autre contexte, c'est-à-dire celui de la gloire de Dieu, des richesses illimitées dans le royaume de Dieu. Ainsi, leur libéralité, leur générosité ne s'exerçait pas à partir de ce qu'ils possédaient ou de ce qu'ils ne possédaient pas, elle s'exerçait à partir de ce qu'ils possédaient dans le royaume de Dieu. Amen. Et là, toute la différence se trouve. Ainsi, la richesse de Dieu se manifestait au travers d'eux, et ils ont pu dire, Paul, nous désirons prendre part, et Paul dira, ils ont donné même au-delà de leurs moyens. Pourquoi? Parce que ça leur venait d'en haut. Donc, notre partenariat avec le Seigneur doit s'exercer à partir de la source de l'arbre de vie qui est Jésus, le Christ glorifié. Amen. C'est avec lui, par notre engagement à le suivre dans ses œuvres merveilleuses, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, que nous devons ainsi enrichir notre communion pour mettre en pratique les œuvres qu'il a préparées d'avance. Et la différence est grande sous tous ces rapports. Acte 4, 32, chapitre que vous connaissez très bien. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Le partenariat de chacun, ici, ne s'appuyait pas sur leurs biens personnels, mais sur les richesses de Dieu qu'ils avaient trouvées dans leur union avec le Christ glorifié. Ils vivaient leur partenariat avec la Sainte Trinité. Ils ne perdaient pas leur temps à s'entretenir sur les potins de l'adversaire, ni sur les sorciers, n'est-ce pas? Ils avaient beaucoup plus d'intérêt à parler les richesses de la gloire de Dieu qu'ils découvraient dans le royaume de Dieu, ce qui leur rapportait bien plus et valorisait leur foi en vue de se perfectionner en sagesse et en connaissance. Alléluia. La foi est la raison. La foi est une folie pour la raison, mais elle est une sagesse pour Dieu. Genèse 11, verset 7. L'Éternel dit, descendons du ciel pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. Alors il dit, Voici, ils forment un seul peuple parlant tous la même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris de faire. Et maintenant, quels que soient les projets qu'ils concevront, rien ne les empêchera de les réaliser. Eh bien, descendons, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et brouillons, confondons leur langage pour qu'ils ne se comprennent plus entre eux. Les hommes se sont associés pour élever la tour de Babel, ainsi plaçaient-ils la raison au-dessus de la foi, afin d'établir un ordre nouveau. Aujourd'hui, les hommes ne visent-ils pas à établir un ordre mondial ? Laïque, pour certains, ce qui veut dire profane, non initié à la religion, et qui ne fait pas partie des choses sacrées. Autrement dit, un ordre mondial sans Dieu, hors de sa parole. Mais dans sa raison d'être, l'homme se croit ingénieux. Il croit maîtriser sa vie en établissant ses propres lois, ses propres règles selon lesquelles le peuple doit se diriger, et où chacun est façonné dans un courant de pensée unique, mais cette espérance est vaine. Car dans sa folie, il est tellement ingénieux qu'il établit ces choses, entre parenthèses, laïques, comme sacré. Ne mettons donc pas notre gloire dans la raison humaine qui cherche à s'étendre comme étant au-dessus de la foi. Si la raison n'interdit pas la religion, au contraire, elle s'en accommode. Mais cependant, la raison est l'ennemi de la foi en action. La foi en action renverse les raisonnements, non par des discours persuasifs, mais par une démonstration de la puissance de l'Évangile, ce qui implique de notre part un véritable engagement dans notre partenariat avec Dieu et dans la dimension dans laquelle nous devons l'être aujourd'hui. Quelle est la dimension de notre partenariat avec Christ ? Amen. C'est par le moyen de la foi que tu peux ainsi saisir cette réalité biblique hors des normes de la nature terrestre. Tu peux expérimenter ton partenariat avec Jésus et avoir le sentiment d'échouer parce que ta raison s'élève au-dessus de ta foi. Jésus est là pour te relever comme il l'a fait avec Pierre lorsqu'il a marché sur l'eau. Pierre a marché sur l'eau, c'est-à-dire hors des normes naturelles. Mais il a marché sur l'eau, sur un seul mot, viens. Mais la raison de Pierre a pris le dessus de la foi et il s'est enfoncé. Cependant, Jésus est là pour te relever et te dire, ne doute pas. Recommence. C'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice de Dieu. Alléluia. La croix sur laquelle Jésus a été crucifié, alors notez bien qu'il y avait l'arbre de la vie, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et maintenant il y a un troisième arbre. Ce troisième arbre, c'est la croix, sur laquelle Jésus a été crucifié. Ce qui, concrètement, a été crucifié, c'est notre nature humaine, avec toutes ses faiblesses, sa corruption. En résumé, notre raison a été crucifiée. La croix était plantée sur le lieu du crâne. Nous n'avons donc plus à être redevables de notre nature humaine ni de ses faiblesses, dès lors que notre raison fléchit devant la croix et que nous ayons l'humilité de faire appel à la sagesse et à la connaissance de Dieu. 2 Corinthiens 3:18 Et nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, Nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. L'amour est l'essence même de Dieu, et il est lumière, et il ne peut y avoir de ténèbres dans la lumière. La foi en action prend sa source dans l'amour de Dieu, Dieu est amour. La foi en action prend sa source dans la lumière, Dieu est lumière. La foi prend sa source dans ce feu céleste qui ne se consume point. Dieu est ce feu céleste qui ne se consume point. Amen. Et enfin, Genèse 2, versets 10 à 12. Du pays d'Éden sortait un fleuve qui arrosait le jardin. De là, il se divisait en quatre bras. Le nom de l'un était Pishon. Il contourne tout le pays de Havila au sol gorgé d'or, s'il vous plaît. Au sol gorgé d'or, un or d'excellente qualité. On trouve aussi dans cette contrée de l'ambre parfumé et la pierre précieuse appelée onyx. Le chiffre 4 évoque l'universalité, les quatre points cardinaux. Mais il prouve la surabondance des eaux jaillissant d'Éden et qui symbolise la vie. Jean 10:10, Jésus dira, « Je suis venu afin que les hommes aient la vie et la vie en abondance. » Tite 3:6 nous dit encore, « Il a répandu l'Esprit sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Il l'a fait pour que, déclarés justes et par sa grâce, nous devenions les héritiers de la vie éternelle qui constitue notre espérance. » Amen. Psaume 68, verset 16, je lis dans la version synodale, « Dieu délivre les captifs et les met dans l'abondance. » Vous voyez notre partenariat avec Christ? Nous sommes appelés à prospérer dans cette dimension, ainsi pour amener du ciel avec abondance sur la terre. Voilà notre mission. Vous pouvez encore noter Psaume 68, que vous pourrez lire, versets 6 à 14. Il est notre Père dans sa sainte habitation. Je suis une habitation de Dieu en esprit. 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17. Ézéchiel 1, versets 1 et 3, versets 23. Il se tenait près du fleuve Kébar, le ciel s'ouvrit, et Dieu lui envoya des visions, et il y contemple la gloire de l'Éternel, et il tombe face contre terre. Ainsi, Jean 7, verset 38, dans notre partenariat avec Christ, des fleuves d'eau vive couleront de notre sein. Et de cette vie surabondante, l'or devient une excellente qualité, l'or étant épuré, l'or signifiant également la sainteté. Amen. Gloire à Dieu. Et je vais conclure ici. 2 Corinthiens 4, 18. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles de ce monde, mais sur les réalités encore invisibles, car les réalités visibles ne durent qu'un temps, elles sont éphémères, mais les invisibles demeurent éternellement. Et pour rejoindre ce que notre sœur Muriel parlait tout à l'heure, Psaume 68, verset 14, nous dit, et en tant que partenaire en Christ, et je vous pose la question, resterez-vous en repos? Les ailes de la colombe sont argentées, et son plumage est jaune d'or. Amen. Les ailes de la colombe sont argentées, et son plumage est jaune d'or. Ainsi, notre partenariat avec Christ est un partenariat qui nous amène dans les richesses illimitées de Dieu et dans la dimension de sa gloire, à partir de laquelle nous sommes appelés à déverser les bénédictions sur la terre comme au ciel. Amen. Prions. Père, nous te remercions parce que tu nous amènes à reconsidérer notre partenariat en Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Tandis que dans le monde, les richesses se dévaluent, toi, Seigneur, tu nous partages des richesses et tu veux nous amener à réévaluer notre foi, à réévaluer cette dimension dans laquelle nous vivons notre partenariat avec toi. Merci, notre Père, parce que malgré les crises financières qui sont là autour de nous, nous avons beaucoup plus avec toi que nous avons avec ce monde. En portant notre regard vers toi, nous le portons dans les réalités célestes et nous allons saisir au moyen de la foi les réalités célestes qui nous amènent vraiment à saisir ainsi les véritables richesses que nous possédons en toi et non pas à celles qui sont là sur la terre comme des citernes crevassées, mais en prenant des richesses qui sont là dans les lieux célestes, comme ta parole nous le dit. Ainsi verrons-nous la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Alors nous voulons aussi prendre cette parole et la saisir, la serrer sur notre cœur. Nous avons l'assurance, notre Père, que tu es grand, que tu es riche, que tu es fort, que tu règnes dans la gloire, et qu'en Jésus-Christ, nous avons tout pleinement en toi, et au contraire, nous possédons tout pleinement en toi. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous et pour chacun de ceux qui sont au bénéfice de cette vidéo. Merci Père de les bénir et que ta vie surabondante se déverse au nom de Jésus avec puissance et gloire sur chacun. Amen.